应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile accueille les images mi-amusantes, mi-sérieuses de l'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismäki avant d'être fracturée par le déstabilisant Split de M. Night Shyamalan. Et aujourd'hui en studio, les yeux et les voix de Maëlys, Pierre et Anastasia. Et on commence justement avec toi, Anastasia, pour l'autre côté de l'espoir. Bonjour.
Bonjour, ami. Eh bien, on retrouve dans le film L'autre côté de l'espoir deux histoires racontées en parallèle, celle de Wilkstrom, un Finlandais de 50 ans qui vient de quitter sa femme, et de Khaled, un jeune homme syrien qui demande asile en Finlande. Les deux héros sont en train de vivre de grands changements de leur vie, mais à l'échelle absolument différente. Leurs histoires se réunissent quand, un soir, Wilkstrom trouve le réfugié dans la cour de son restaurant.
Alors oui, la cour de son restaurant est plus exactement dans les poubelles, hein. il faut bien le dire. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Anastasia ?
J'ai beaucoup aimé. Je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. En tout cas, c'est pas le film que j'ai vu cette année qui m'a frappé. Il y en avait d'autres qui m'a frappé beaucoup plus. Mais celui-ci, c'est absolument quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Déjà, je continue à découvrir le cinéma national. Là, pour cette fois-ci, c'est le cinéma finlandais. Et j'ai beaucoup adoré l'humour des Finlandais, du réalisateur en particulier. Et je trouve que c'est un film assez fin et qui vaut certainement le coup de voir.
Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de finesse dans l'humour comme dans le reste. Mmh. C'est vraiment un très bon film et qui va bien plus loin que ce qu'on pourrait lui faire dire à premier abord. Et tu parles de cet humour assez typique, d'un certain humour nordique, très grinçant, très silencieux.
Un peu sévère.
Des personnages qu'on a l'impression qu'ils sont faits de cire un petit peu. Enfin, c'est très, très amusant. Et oui, vraiment assez caustique. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet humour-là.
À certains moments, cet humour va jusqu'au burlesque, en fait, et des fois grotesque, il me semble. Parce que, en fait, tu l'as dit tout à fait, on ne sait pas, en fait, exactement si on aura rire, ou si c'est un drame, ou si c'est une comédie, parce que c'est le mot, c'est le sens d'humour sur des choses qui sont finalement assez graves, mais c'est... moi personnellement je le trouve le même sens d'humour un peu chez les Russes aussi qui voilà on rit un peu sur ceux qui ont nous fait surprise.
Il y a aussi des tranches d'absurde total. Je pense le maître d'hôtel et le patron du restaurant qui sont accoudés contre le bar et qui échangent chacun une réplique de philosophie sur leur ontologie profonde et c'est tout et ça s'arrête là et c'est juste pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a d'un côté une violence qui est très drôle entre les personnages.
Ouais.
Les personnages qui leur rencontrent, ils se mettent chacun un grand coup de poing dans le nez. Enfin, il y a quelque chose d'une violence drôle et à l'inverse d'interaction sociale très feutrée, mais qui sont violentes, qui sont une espèce d'entrechoquement de personnalité. Mmh. Et c'est assez amusant. Quand je parle de violence drôle, je parle aussi de ces skinheads qui sont ridicules.
Mmh.
D'ailleurs, qui n'ont même pas d'action, parce qu'à la fin, ils tuent le personnage, mais le personnage ne meurt pas. Enfin, il y a quelque chose de très, très ridicule et d'absurde aussi dans cette espèce de dénouement.
Pour moi, il y avait aussi la violence froide de la loi, de l'autorité, des règles, voilà, autorités qui finalement sont beaucoup plus violents, juste parce que ils sont beaucoup plus, ils font pas d'exception à la différence des humains et des relations humaines sociales qui est très présente dans ce film. Et en fait, pour moi, c'était le film sur la question, bah, c'est assez évident, sur la question sociale, comment on peut vivre dans la société. Mais finalement, la réponse est là. C'est grâce à des relations humaines et à la présence des sentiments pour que la vie soit vivable, quoi. C'est absolument ça. Et du coup, oui, c'est à la fois les humains sont les êtres les plus violents. Et en même temps, ce sont les êtres qui peuvent se sauver. Et voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Je reviens sur ce que tu disais. C'est l'institution qui est extrêmement violente aussi. Il y a un montage assez terrible à ce titre-là. Quand le verdict dit nous avons... le ministère des Affaires étrangères juge que la situation n'est pas assez grave en Syrie pour que vous puissiez demander l'asile. Et juste après, le reportage télévisé sur les bombardements à Alep qui dit « Mon Dieu, quelle horreur !» Et je te rejoins sur la suite aussi, sur le fait qu'en effet, c'est la solidarité qui est la sortie de l'impasse. La fraternité, en effet, et une fraternité qui, c'est là que c'est très intelligent, qui est à double sens. C'est-à-dire que ça n'est pas l'Européen gentil qui va aider le migrant en détresse. Et on se demande même si ça n'est pas plutôt le migrant qui vient aider l'Européen, parce que le migrant disparaît complètement par sa fin, par la fin du scénario. Le personnage qu'on garde à la fin, c'est Wikström, c'est la Finlande.
Ouais.
Mais c'est une Finlande qui a réussi à se retrouver elle-même. C'est une Finlande qui a trouvé son avenir dans la coopération, dans l'acceptation de l'autre. Et Kauris Mäki peint avec un petit peu de cruauté une Finlande où les prix sont encore marqués en marque, alors que le pays est passé à l'euro depuis un petit moment. Enfin, qui montre une Finlande très très vieille. Mais qui justement trouve son salut, peut-être finalement, dans cet ailleurs qui vient à elle. Tout l'enjeu est aussi de comprendre cet étranger, et c'est aussi montré de façon très très drôle avec ce restaurant qu'il va tenter de transformer en restaurant japonais, plus vrai que nature, qui n'a plus rien d'authentique en fait, et qui montre bien tous ces espèces de clichés avec un Japon complètement fantasmé, et quand les vrais Japonais viennent, finalement, ils sont comme nous.
Bah oui, mais après il y a aussi, déjà le titre, il y a beaucoup de, on parle de l'espoir dans ce film, c'est assez évident, et déjà ça revient, déjà la première chose, moi j'étais un peu perdue dans le temps, je comprenais pas tout à fait dans quelle temporalité on se trouve, parce que au début j'ai eu l'impression que c'était les années 50-60, comme si on se retrouve dans le monde qui veut changer, qui va changer peut-être, mais finalement, en fait, il y avait aussi des... Moi, je sais pas, mais j'ai remarqué des trucs... il y avait la voiture de...
Extreme.
Oui, c'est ça, elle était... c'est une ancienne voiture, mais après, il y avait un Mercedes, genre, de nos jours. Et du coup, c'est un mélange, je crois que c'était fait quand même exprès, un mélange des temps, qui montre que finalement, s'il y avait des espoirs dans ce sens-là, parce qu'il y avait beaucoup de questions d'espoir, mais dans ce sens-là, si on se retrouvait au début dans le monde qui devait changer, qui voulait changer, finalement, on se retrouve avec les mêmes questions, parce que la question de la Syrie, il reste toujours là. En tout cas, la question de la guerre et des gens qui fuient, qui partent de leur pays à cause de la violence inhumaine, c'est la question éternelle. Et du coup, on se retrouve toujours dans cette situation et c'est assez ridicule.
C'est assez ridicule, mais il y a eu une création de fraternité entre les hommes qui les a tous permis d'avancer, malgré tout. Et il y a eu une rencontre entre des êtres humains. Et ce que montre bien ce personnage de Wikström, qui va retrouver sa femme, qui va revenir à ce qu'il est finalement, tout en ayant profité de toute cette expérience. Et ça, c'est un discours qui est vraiment très bien servi par l'esthétique du film, parce que je trouve que ces personnages... ont une humanité qu'on voit d'autant mieux qu'on a l'impression qu'elle est endormie. C'est-à-dire que ces personnages complètement raides qui parlent très très peu et qui du coup ressemblent un peu à des pantins, ben justement sur ces pantins, lorsqu'il y a quelque chose de vraiment humain, on le voit. Et c'est ça qui est très beau dans ces personnages. C'est comment réussir à faire transparaître l'humanité en enlevant toute la couche qu'on pourrait appeler la société, finalement.
Eh ben oui, tout ce qui est social, la communication, un peu dans, à la limite, bavardage. Et aussi, je voudrais revenir sur la question des sports au jour et la question de l'humanité, qui sont finalement très liées dans ce film. C'est pas seulement la question de sa vie, parce que finalement, il dit que pour lui, peu importe ce qu'il va devenir, c'est sa sœur pour laquelle il s'inquiète. Et voilà, ça, je trouve que je suis d'accord que c'est montré d'une manière très très belle.
C'est très très beau, d'autant plus que sa sœur est l'élément qui déçoit le spectateur, parce qu'en fait, sa sœur finalement, c'est une espèce de fantôme qui apparaît et disparaît aussitôt. Ce qui est beau, c'est sa recherche à lui d'une aide pour sa sœur.
Et c'est de Monsieur Poirel, mais oui.
Et ça en fait vraiment un très très beau film.
Et ben oui, je suis d'accord. Et du coup, j'invite tout le monde, chers auditeurs et auditrices, de voir ce film qui passe encore chez nos partenaires, les Cinémas Lumière. Et maintenant, on te retrouve, Rémi, pour nous parler de Split.
Tout à fait, Anastasia. On enchaîne avec le nouveau film de M. Night Shyamalan, réalisateur du Sixième Sens, entre autres. Le film Split, donc, démarre à la fin d'une fête d'anniversaire. Un inconnu s'installe au volant d'une voiture où trois adolescentes attendaient le père de l'une d'entre elles et les emporte. Droguées par l'inconnu, elles se réveillent dans une cave où il les maintient séquestrées, les destinant à nourrir quelque chose qu'il nomme la bête. Ou du moins, que trois de ces 23 personnalités nomment ainsi. Et c'est là l'enjeu de ce film, plutôt que la survie des trois jeunes filles, c'est bien le combat terriblement destructeur entre les différentes individualités habitant cet homme que nous montre Shyamalan dans ce thriller haletant, faisant aussi émerger, comme en écho aux fractures du ravisseur, le traumatisme de l'une des adolescentes sur qui la caméra se focalise peu à peu. Mais avant d'analyser ces relations assez intéressantes entre les personnages, Maëlys, qu'en as-tu pensé ? Déjà, bonjour Maëlys.
Bonjour Rémi. Alors moi, je n'ai pas trop aimé le film. Enfin, je m'attendais, j'avais lu les critiques de la presse juste avant. Il paraissait que le twist à la fin était la marque de fabrique en fait des films de Shyamalan était super. Et en fait, j'étais affreusement déçue. J'ai trouvé ça très surjoué et un peu cousu de fil blanc. Voilà.
D'accord. Eh bien, alors, nous n'allons pas être d'accord, aujourd'hui.
Ok, ça tombe bien.
Parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Alors, je me suis posé des questions quelque temps sur la fin. On pourra en rediscuter. Mais en effet, il y a un moment où, sur les 20 dernières minutes, le réalisateur s'amuse avec toute la culture Marvel et toute la culture du film de méchants super-héros s'éloigne un petit peu du film d'épouvante dont il s'inspirait pendant toute une première partie. Mais finalement, ça reste, je trouve, à l'état de référence et ça sert pour moi le propos du film. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le talent avec lequel il instaure une ambiance. Évidemment, le talent des deux acteurs. Et puis, toute la mise en scène méticuleuse où chaque objet de chaque plan, chaque cadrage, le minutage, la direction d'acteur, tout est absolument millimétré pour nous entraîner exactement où le réalisateur le veut. Il y a quelque chose de complètement Hitchcockien dans cette mise en scène. Et à ce titre-là, je trouve ça extrêmement réussi, mais c'est peut-être une question de ressenti à ce niveau-là.
Ouais, moi je pense que j'étais très, très influencée par le Sixième Sens et par le dernier que j'avais vu, c'était The Visit, que j'avais beaucoup aimé. Et moi, ce qui m'a un peu dérangée, ok, c'était extrêmement bien filmé, très méticuleux, très, très soigné comme mise en scène, mais des fois, ça faisait un peu trop, justement, film comme ça, avec beaucoup d'attendu. Par exemple, je pense au passage à la musique, quand la psychologue, en fait, parle et décrit le personnage, etc. On a tout de suite une musique un peu grave, un peu... comment dire, un peu sombre, où on voit bien que c'est qu'il a 23 personnalités, que c'est quelque chose d'hors du commun, etc. Et en fait, moi, à chaque fois, il y avait un suspense, mais quelque part, la bête, on l'attendait depuis le début du film. On savait qu'il allait... on sait assez tôt qu'il a une... Je vais spoiler un peu. Qu'il a une 24e personnalité qui va arriver, et c'est la bête, etc. Et il l'a décrit dès le début comme étant un surhomme évolué, etc. Et effectivement, à la fin, on a un surhomme avec une bête évoluée. Et oui, moi, c'est... Enfin, j'ai eu l'impression davantage de voir un espèce de Marvel ou de film un peu inspiré de Marvel, avec pas vraiment de... Du point de vue de du scénario, pas vraiment de rebondissement. Et voilà, je me suis un peu ennuyée.
Mais alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'apparition de cette bête, hein, The Beast, sert le propos du film. C'est parce que, justement, dans ta critique, tu te focalises sur l'apparition de cette bête. Mais en fait, ce que je trouve fascinant dans ce film, plus que le personnage principal, c'est la personnage principal.
La psychologue.
Le personnage de cette jeune fille, Casey, qui agit à la fois comme révélateur de toutes les fissures du ravisseur, parce que, alors, il y a trois filles qui sont enlevées, mais il y a vraiment cette fille qui est un peu la sociale de la classe, et les deux autres sont très vite évacuées, déjà sont dévorées, mais même le réalisateur est très très cruel avec elles, il les déshabille petit à petit, mais c'est complètement grotesque, enfin, elles sont vraiment évacuées très vite dans le grotesque, mais il y a cette fille qui, d'une part, parvient à comprendre comment fonctionne cet homme, mais surtout cet homme lui permet de révéler ses propres souffrances, de se les révéler. Et la fin, l'apparition de la monstruosité qu'il a en lui et l'apparition aussi de son traumatisme à elle permet une confrontation entre ces deux souffrances, et c'est peut-être là que Shyamalan délivre le vrai message du film, qui est vraiment un film sur la souffrance, sur le mal, sur une espèce d'incarnation d'un mal irréversible et de sa puissance destructrice, y compris sur l'univers.
Mais moi, je l'ai trouvée insupportable de bout en bout et complètement incrédible, cette fille. Et je suis absolument pas rentrée dans ses souvenirs de chasse, déjà parce que je regarde la chasse. Donc déjà, j'avais un côté absolument antipathique. Et puis la manière dont elle parle à ses copines, qui sont quand même ses copines. Effectivement, elle a l'air vraiment asociale, etc. Mais à un moment, elle se prend aussi pour la seule fille intelligente du groupe. Et elle a, qu'à un moment, elle leur balance une réflexion. La première réflexion, c'est « Maintenant, vous vous taisez jusqu'à ce que j'ai une idée ». Voilà, j'ai plus exactement la réplique, je sais pas si tu l'as noté.
Non, j'ai pas, oui, mais je vois ce que tu veux dire.
Et là, de ce côté-là, la façon de ce film de se focaliser sur cette fille et de mettre de côté les deux autres complètement, en fait, ça m'a... Ouais, elle m'a tout de suite paru très antipathique et j'avais plus pitié, je m'identifiais plus aux deux autres qui paniquaient et qui étaient normales que sur cette fille qui... moi, j'ai eu vraiment du mal à m'identifier à ce personnage-là parce qu'il était vraiment mis en exergue et on sentait bien que c'était l'héroïne avec un grand H et ça m'a énervée. Ouais, je sais pas, je suis pas rentrée dedans.
Alors c'est la peur que j'ai eue, justement, qu'on en fasse l'héroïne qui devait s'échapper. Mais en fait, très vite, on se rend compte que l'enjeu n'est pas qu'elle s'échappe parce qu'elles sont prises dans ce réseau de couloirs qui est aussi extrêmement intellectuel. Enfin, ces couloirs figureraient presque un cerveau avec toutes ces circonvolutions. Et justement, le côté très lisse des deux autres personnages fait que on aimerait quelque part s'y identifier pour ne pas avoir à s'identifier aux deux autres. Aux deux autres qui, même du point de vue de l'image, sont des miroirs l'un de l'autre. Alors déjà, il y a des vrais miroirs qui les font se refléter en surimpression. Il y a des champs contre champs entre ces deux personnages. Tout est polarisé par leur regard. Et c'est pour ça que ce personnage de jeune fille est super intéressant, parce que toute cette libération, alors qui est libération du traumatisme, et d'ailleurs c'est très bien figuré à la fin, lorsque après avoir vu toutes les portes se refermer sur elle, eh bien elle réussit à toutes les ouvrir. Et on a toute une séquence avec des portes qui s'ouvrent comme ça dans ces couloirs, et c'est extrêmement évocateur. Mais c'est aussi une libération de la violence. Et c'est là aussi que je trouve que Shyamalan sauve le truc par rapport à le délire Marvel, super-héros, etc. C'est qu'il nous laisse avec la possibilité d'un cataclysme. Il nous laisse avec la violence déchaînée et nous dit « Et maintenant ?» et n'essaye pas de verser dans le film apocalyptique ou quoi que ce soit. Vraiment, le film se termine avec la mise au jour de ces personnages et précisément de ce personnage de Casey, qui est l'élément qui sort transformé de ce film. Parce que finalement, les deux autres jeunes filles sont tout aussi vides avec ou sans leurs viscères, pour le dire comme ça.
Mais moi, j'ai du mal avec ce côté. Pour que le personnage soit intéressant, il faut forcément qu'il soit traumatisé. Et donc, quelque part, elle a un petit côté élu aussi à la fin. Enfin, j'ai l'impression, à la fin, quand on voit les stigmates qui apparaissent à la fin, quand tu es dans la cage, etc. Et oui, enfin, du coup, si tout l'enjeu du film c'était montrer qu'elle seule pouvait survivre parce qu'elle seule avait connu un traumatisme, et en plus j'ai eu du mal à voir en quoi les deux traumatismes se rejoignaient. Et j'ai un peu eu du mal avec ce côté, en fait, tout était déjà écrit parce que c'était pour ça, en fait, qu'elle a tout compris et qu'elle était intelligente et qu'elle pouvait comprendre la souffrance du fou, en fait, enfin, de James McAvoy, je sais plus comment il s'appelle exactement, il a 15 000 identités.
Kevin.
Oui, c'est ça, Kevin, son vrai nom. Mais il y avait un espèce de non-dit là-dedans et j'aurais aimé que ce soit plus intelligible et que ça soit moins... Il y avait un petit côté Harry Potter qui m'a un peu... j'exagère, hein, mais qui m'a un peu dérangé. C'est Voldemort, Harry Potter, tu vois, qui se retrouve...
Qui agissent comme révélateurs l'un de l'autre.
Et ça m'a un peu dérangé. Je m'attendais à un film plus modeste. Déjà, dans les effets d'annonce tout au long du scénario, sur un mode la fin va être énorme, la bête va arriver, etc. Moi, jusqu'à ce qu'il arrive dans le train pour accueillir la bête, enfin, je spoil encore, avec son bouquet de fleurs, je me disais, là, il va se passer un truc, on va être complètement retourné comme des crêpes. La bête, c'est pas du tout ce qu'on pense, et ça va être, et tout va s'expliquer, et j'ai pas été du tout surprise, en fait.
Un truc sur lequel on peut peut-être s'accorder, c'est le jeu de James McAvoy.
Alors, je suis même pas sûre qu'on s'accorde là-dessus, mais on va s'accorder, vas-y, dis-moi.
Non, je trouve que c'est un petit peu la cerise sur le soufflet qui ne s'est pas dégonflé. Avec ce visage complètement lisse, habité par des yeux définitivement fous, cette capacité d'alterner entre la violence extrême et une douceur infinie également, une candeur même totale quand il joue l'enfant. Ce personnage, son jeu sert vraiment d'ossature au film.
Alors moi, il m'a fait flipper de bout en bout, et j'ai trouvé effrayant de bout en bout, et je me suis absolument pas identifiée à lui. Encore une fois. Mais surtout, moi, j'avais lu, enfin, dans tous les journaux étaient dithyrambiques sur le jeu, etc. Et en fait, j'ai plus vu un espèce d'exercice de style, en fait, la manière dont les gros plans étaient faits, justement pour montrer en mode. Moi, j'ai l'impression que le sous-texte était regardez comme il joue bien, comme il passe d'une expression à l'autre, comme il change de ton, comme il change de personnage, Et j'avais l'impression d'un espèce d'exercice de style de théâtre, en fait, et que. Enfin, assez classique et pas du tout. Pas si révolutionnaire que ça, pas le numéro qu'on m'avait vendu. Voilà, j'ai eu l'impression d'un espèce de. Voilà, exercice de style, exercice de théâtre où on te demande de passer de l'émotion à la colère en passant par la gentillesse, en passant par d'improvisation. J'ai eu plutôt l'impression de regarder un numéro théâtral. Mais voilà, c'est mon. On n'est pas du tout d'accord.
Décidément, nous ne sommes toujours pas d'accord sur aucun point de ce film. Je maintiens que le discours sur cette puissance du mal et la nécessité de le révéler, y compris la portée politique que peut avoir ce discours aujourd'hui également, vaut le coup qu'on aille se faire son avis soi-même. Chers auditeurs, il est encore en salle pour un petit moment, je pense.
On en reparlera. Écrivez à Rémi Serba.
N'hésitez pas à commenter la page de l'émission pour nous donner votre propre avis et faire pencher la balance. Voilà, c'est Split de Night Shyamalan.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool. Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Alors cette semaine, paraît-il que tu vas nous parler de ton sitcom préféré.
Eh bien oui, parce que aujourd'hui, nous faisons l'épisode 10 de ma rubrique sur les séries. C'est donc un épisode très spécial et c'est pour ça que j'ai envie de le commencer par une question très spéciale que je te pose, Rémi. Et nous allons en discuter un petit peu avant de parler de, justement, ma série préférée. Pourquoi regarde-t-on des séries, à ton avis ?
Parce que le canapé est plus proche que le cinéma.
En effet, c'est une bonne raison, parce que, comme tu le sais, bien sûr, les séries ne se regardent pas dans une salle de cinéma, c'est quelque chose qui se regarde chez soi. Donc c'est quelque chose d'assez privé, on va dire, plus que le fait d'aller au cinéma, en effet. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons, quand même, pour s'accrocher à ce canapé et s'enfiler des heures et des heures de séries.
Oui, parce que c'est exactement ce qui motivait la lecture des romans feuilletons et un siècle plus tôt, c'est-à-dire que tout est construit pour que la fin de chaque épisode appelle l'épisode suivant, et ça crée un effet d'attente, ça se regarde d'ailleurs pas du tout comme on regarde un film.
Exactement.
C'est quelque chose qui est écrit pour être regardé sur la longueur, et qui est fait un petit peu pour accompagner peut-être plus le rythme de la semaine que le rythme de la journée ou de l'heure, comme le ferait le film.
Eh bien, tu m'ôtes les mots de la bouche. En effet, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est que les séries se regardent de manière différente. Les films, on se pose, on regarde le film, c'est fini, on range le DVD ou on rembobinait la cassette, il fut un temps. Alors que la série, eh bien, il y a deux manières de faire. Forcément, il y a le binge-watching, chose à laquelle je m'adonne régulièrement, comme vous le savez, c'est-à-dire regarder les séries, les épisodes à la suite, parce que ça crée une sorte de dépendance avec, comme tu le disais, ces techniques scénaristiques pour appeler l'épisode suivant, pour faire regarder, continuer de regarder. Ça passe, bien sûr, par des cliffhangers que l'on peut trouver dans certaines séries à suspense. Par exemple, Breaking Bad est connu pour ses cliffhangers. Mais d'autres séries, comme par exemple House of Cards, soit jouent sur les cliffhangers, soit jouent justement sur une continuité, au sens où la narration n'est que coupée par la fin de l'épisode, que l'on retrouve directement après, au même instant, sans nécessairement ce cliffhanger qui est explicite. Et aussi, ça se joue sur la longueur. Il y a deux manières, comme je vous le disais, de regarder les séries. Premièrement, il y a le binge-watching, où cette longueur s'avère être quelque chose qu'on regarde d'une traite, mais aussi, il y a la longueur du fait que les épisodes sont diffusés à échéance régulière. On doit attendre pour avoir la suite. Et c'est une chose qui permet de renforcer l'attrait de la série, parce que, comme tu le sais, quand on sort d'un cinéma, on discute du film, on peut en discuter encore quelques jours plus tard, on peut participer à des toiles plein les yeux pour en parler.
Tout à fait.
Alors qu'une série, on passe une semaine entière à spéculer sur la série, à dire pourquoi on a plus ou moins aimé cet épisode. On décortique la série pendant qu'on la regarde, pas pendant qu'on regarde la série vraiment, parce que sinon on se fait tabasser par les gens, ou alors c'est avec quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement et du coup on se permet de discuter de la série, mais ça n'empêche que pendant toute la semaine à attendre, voire même l'année entière lorsqu'on regarde des saisons, eh bien on discute de la série ou on la décortique, on la critique, et ce qui augmente notre intérêt pour cette série.
D'où ta chronique.
Exactement, ma chronique qui toutes les semaines vise à décortiquer certaines séries pour faire ce travail à votre place, pour vous donner envie de regarder les séries, peut-être même de les binge-watcher. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous parler de mon sitcom préféré, qui s'intitule Better Off Ted. Alors, c'est une série format court, avec des épisodes de 21 minutes, et elle n'a duré que 2 saisons. Elle fait partie de ces séries qui ont été si injustement arrêté avant leur fin, même si bien sûr, comme d'habitude, il y a une fin qui a été faite à l'arrache à la fin de la saison 2, histoire de ne pas trop laisser les auditeurs déçus et sur leur fin. Elle a donc duré 2 saisons, diffusée entre 2009 et 2010 sur ABC aux États-Unis, et je l'ai découverte grâce au cours de préparation du CAE, où nous avons eu la joie de regarder un extrait d'un des épisodes qui m'ont fait découvrir justement cet humour si incisif et si particulier de Better Off Ted. Alors oui, cette série est très très drôle, avec un humour très fin, assez subtil, Et des fois, ça tombe dans l'humour tout simplement physique, on va dire, ce qui rajoute justement différentes couches d'humour que je trouve très intéressantes, comme MASH, par exemple. Je pense que j'ai fait une connexion sans m'en rendre compte, inconsciente, qui fait que ces deux séries, qui sont mes séries humoristiques préférées, ont fait que j'ai adoré Better Off Dead. Et donc, Better Off Dead tourne au ridicule le monde de l'entreprise, mais aussi de la science et, mine de rien, de l'esprit rebelle. Et c'est ça qui est drôle, c'est ce cocktail assez explosif, parce que ça raconte l'histoire de Ted, le chouchou d'une multinationale, l'homme à tout faire que tous les PDG adorent, parce que c'est l'homme bon, moral, juste, qui est un père unique avec sa fille unique, qui l'élève dans la moralité, mais qui, en même temps, travaille pour une multinationale qui n'hésite pas à transformer les citrouilles en armes chimiques ou tout simplement à martyriser ses employés pour faire tester des choses plus ou moins bizarres comme des chaises de bureau qui vous grattent à longueur de journée pour augmenter votre travail. Alors, c'est l'histoire donc de Ted, ce chouchou de la multinationale, qui se retrouve confronté non seulement à sa moralité, mais aussi à sa directrice, qui est sa supérieure, qui s'appelle Veronica, jouée par Portia de Rossi, une actrice que l'on connaît dans l'univers des séries et qui joue bien les rôles bien cadrés. Alors, c'est donc cette PDG supérieure, Veronica, qui est à fond dans le monde de la multinationale, qui est presque un robot qui ne vit que pour augmenter les profits, mais aussi l'amour de Ted, qui s'appelle Linda, et qui est justement cet esprit rebelle qui participe à cette multinationale, mais qui met toujours en avant les questions morales en disant « Est-ce que vous êtes sûr qu'utiliser les citrouilles pour tuer des gens, c'est moral ?» Et c'est donc ce personnage de Ted qui se retrouve entre ces deux personnages extrêmes qui apportent cet humour grâce à la confrontation de ces différents milieux. Bien sûr, il y a Rose, la fille de Ted, cette fille qui est une fille très intelligente de 8 ans, mais aussi très morale, qui, contrairement à Linda, n'est pas là pour apporter l'esprit rebelle, mais qui est là pour apporter l'esprit candide d'un enfant qui dit « Mais tu m'as appris que c'était pas bien de faire ça ». Et du coup, il y a tout ce jeu, bien sûr, sur comment enseigner à son enfant la moralité quand on travaille pour une multinationale extrêmement méchante. Reste encore deux autres personnages croustillants, délicieux, admirablement mignons et rigolos, qui sont Phil et Lem, les deux scientifiques tout gentils, qui ont bien sûr des problèmes de couple, l'un n'ayant tout simplement pas de meuf, l'autre ayant une femme qui ne fait que le descendre à longueur de journée, et donc ils apportent leur point de vue frais et amusant sur l'amour ridicule, mais aussi sur la science et sur ce que c'est que le progrès. Donc il y a plein de personnages extrêmement attachants dans cette série, et même si les épisodes suivent toujours le même schéma, avec l'entreprise a une idée, ils tombent sur un problème assez particulier qui met en cause leur moralité, Ted hésite, est-ce qu'il doit aller du côté de Veronica ou du côté de Linda, et finalement, il trouve la solution qui marche, qui fait plaisir à tout le monde, ou qui demande un sacrifice de la part de Veronica qui montre qu'elle a une part d'humanité en elle. Et donc, même si ça suit toujours le même schéma, c'est toujours aussi jouissif, on a envie d'en voir plus, parce que tous les problèmes justement qu'elle doit faire face, l'entreprise et Ted et son équipe, sont des problèmes toujours un peu bizarres, un peu étrange, mais toujours très amusant, avec des histoires secondaires qui sont toujours à mourir de rire, même si ce ne sont que des détails. Par exemple, à un moment, Phil et Lem se rendent compte que leur machine, leur robot à aspirer les produits chimiques tombés sur le sol, commence à être défectueuse, et on l'amène, comme Ted leur a promis, dans une ferme au loin, dans la campagne américaine, où tous les jeunes robots, enfin, tous les vieux robots sur le point de mourir, peuvent s'épanouir. Et donc, il y a bien sûr ce fond moralisateur, mais ça marche tout au long de la série parce que cet humour est incisif. On se moque des personnages, les situations sont ridicules, mais pourtant ridicules et intelligentes. Et c'est ça qui fait que cette série est extrêmement dynamique avec de nombreuses phrases d'anthologie. C'est pour ça que, voilà, c'est une de mes séries préférées et je suis extrêmement bavard, comme vous pouvez le constater. Donc, je m'arrêterai là en vous disant juste, même pas besoin de lui donner de notes, ni même de mentions, allez la voir, elle est géniale.
Merci beaucoup Pierre, décidément, oui tu as aimé.
Et j'ai une annonce à vous faire, nous venons de discuter avec Rémi de la raison pour laquelle nous regardons des séries, je viens de vous parler d'une de mes séries préférées, de mon sitcom préféré. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite ce week-end des Intercus, à participer dès samedi, 8h du matin. Je sais, c'est tôt, mais vous inquiétez pas, je serai levé avant vous pour cette activité. Je vous propose donc de créer ensemble une mini-série sur toute la matinée que nous diffuserons le dimanche matin en cantor avec toutes les autres productions cinématographiques du week-end. Et donc, nous pourrons tester ensemble ce qui fait une bonne série et comment on crée une série, parce que c'est bien beau de les critiquer, mais un jour, faut mettre la main à la pâte pour se rendre compte de ce que c'est derrière les rideaux.
Le rendez-vous est pris, Pierre, pour les InterQ, où nous serons également en direct avec des toiles plein les yeux. Continuons avec quelques idées de sortie pour cette semaine, comme d'habitude. Alors, je commence par vous rappeler que Certaines femmes de Kelly Richard, dont nous parlions dans un précédent numéro, est encore en salle et je me permets d'insister, vu la maigre publicité qui a été faite autour de ce film que je n'ai d'ailleurs moi-même toujours pas pu voir. Je continue avec une sortie de cette semaine, dont nous parlerons d'ailleurs lors de la journée de la radio le 13 avril prochain, Orpheline d'Arnaud Despalières, qui sort donc cette semaine, entre autres chez nos partenaires du Lumière Terreau, film qui s'intéresse à Renée, directrice d'école respectée qui semble mener une vie tout à fait stable et équilibrée, que vient parachever une grossesse qu'elle attendait depuis longtemps. Mais un jour, le passé la rattrape, lorsque l'inquiétante Tara débarque à l'improviste dans sa classe. La bande-annonce vous en dira un petit peu plus sur ce personnage de femme dont on suit l'enfance, le passage par l'adolescence puis l'âge adulte, joué par 4 actrices, avec entre autres Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel. Portrait de femme donc, mais thriller aussi un petit peu, que je vous encourage donc à aller voir. Et si vous aimez bien Adèle Haenel, l'un des films qui l'a définitivement révélé au grand public français, Les Combattants de Thomas Caillet, passe au Ciné-Café Aquarium à Croix-Rousse ce jeudi soir à 20h45, une comédie jubilatoire qui suit deux jeunes gens qui décident de s'engager dans l'armée et qui évite tous les cliché du genre et de la comédie française pour quelque chose d'assez agréable. C'est donc ce jeudi soir au Ciné-Café Aquarium. Du côté des festivals, les 33e reflets du cinéma ibérique et latino-américain ne sont toujours pas terminés au cinéma Le Zola. J'en dis pas plus puisque j'en ai déjà parlé lors des éditions précédentes et vous renvoie également au Journal de la Culture de Marie dans le journal radiophonique Amplifié, un autre festival qui va retenir toute mon attention cette fois-ci, c'est évidemment les Quais du Polar, c'est vendredi, samedi et dimanche. Alors certes, vous serez pris par les InterQ, mais peut-être que certains d'entre vous voudront faire une petite pause cinéma. Alors je cite pêle-mêle La Nuit du Chasseur de Charles Lofton, Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara, L'Immense, Le Troisième Homme de Carol Reed avec Orson Welles, Las Vegas Parano de Terry Gilliam, Killer Joe de William Friedkin, et j'en passe avec, entre autres, La Main au Collet d'Alfred Hitchcock pour clôturer le tout. Tout ça, ça passe à l'Institut Lumière. Ce sont des séances présentées et souvent par des pointures. Je vous encourage à vous intéresser d'un petit peu plus près au programme que nous mettons en lien sur la page de l'émission. Toujours à l'occasion de ce festival Quai du Polar, un certain nombre de films sont projetés également dans les cinémas Lumière. Et Into the Abyss, documentaire de Werner Herzog, retient mon attention. Le grand cinéaste allemand donc se penche sur un condamné à la peine capitale, avec lequel il va discuter une semaine avant son exécution. Suite à cette rencontre, il retourne sur les lieux du crime, interroge les enquêteurs, consulte les archives, non pour juger, mais pour comprendre. Un documentaire certainement passionnant donc par le grand Werner Herzog qui sera projeté aux Lumières Bellecour lundi à 18h30 et là les InterQ seront finis. Je termine avec un film étonnant, Last Man on Earth, qui est projeté ce soir au Périscope près de Perrache. C'est un film de 1964, un film de science-fiction italo-américain. Je vous lis rapidement le résumé. Le docteur Robert Morgan est le dernier être humain à avoir échappé à une épidémie qui a transformé tous les autres hommes et femmes en vampires. Depuis 3 ans, le jour pendant que les vampires se reposent, l'homme armé de pieux de bois parcourt la ville, repère les refuges des morts vivants et les empale pour aller brûler leurs corps. La nuit, il se réfugie dans sa maison où sont suspendus miroir et aille. Et de temps en temps, il essaye de communiquer avec un éventuel autre être humain à l'aide d'une radio, toujours sans succès. Voilà, un film étonnant, je le disais, que vous pourrez donc voir ce soir à 20h30 au Périscope pour les plus courageux d'entre vous. Et pour les encore plus courageux, vous pourrez continuer avec le phénomène grave de Julia Ducournau, dont vous aurez nécessairement entendu parler, sinon je vous encourage à aller voir sa bande-annonce pour le moins efficace, disons. Grave dont nous parlerons en direct ce samedi, puisque nous serons en direct et en public des Intercus samedi à 15h dans les jardins de l'ENS. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour le cinéma, c'était donc Rémi Cerda, Anastasia Kozireva et Maëlys Barr. Pour les séries, Pierre Lemoël, comme d'habitude. D'ici samedi, donc, n'hésitez pas à commenter nos émissions sur leur page sur transistor.fr. Et d'ici là, bonne semaine à tous dans les salles obscures.